Merci beaucoup, Nadine. Bien, je vais maintenant passer la parole à notre collègue Abdoul Sow, qui développe ce qu'il nous avait présenté tout à l'heure à propos des conséquences concrètes de cette juxtaposition des droits et en même temps cette offensive contre les terres des paysans, les terres communales.
Merci. Je vais laisser encore de la merci. Nous avons trois temps. Premier temps, c'est l'époque coloniale. Deuxième temps, c'est le régime socialiste. Troisième temps, c'est le régime libéral, qui commence en 2000. Donc, l'époque coloniale, ce qu'on ne dit pas souvent, je te le disais tout à l'heure, j'ai un papier qui doit être publié aux Pays-Bas, donc je ne vais pas le développer ici, mais durant l'époque coloniale, il y avait pratiquement deux formes d'accaparement des terres. L'État colonial, qui voulait développer la culture de l'arachide, donc va s'accaparer des terres pour faire des entreprises agricoles. Mais puisque l'arachide au Sénégal ne se cultive que par la famille, donc c'est une agriculture familiale, toutes les exploitations ont échoué. Maintenant, qu'est-ce que l'État colonial va faire? L'État colonial va s'appuyer sur des chefs de canton. Le gouverneur, le commandant de secte, c'est des Européens, celui qui vient appeler, c'est le chef de canton, et le chef de village, et le chef de quartier. Donc, l'intermédiaire du système colonial au Sénégal, c'est le chef de canton, au noir. C'est toutes les anciennes familles royales à qui on a remis le pouvoir administratif. Donc, on va les appeler pour faire des champs de démonstration. Et on demande à chaque chef de canton de créer un champ de démonstration dans son quartier, dans son village. Qu'est-ce qu'il va faire dans son canton? Donc, charrue, semence sélectionnée, en respectant les normes de semence, etc., etc. Donc, il faut un terrain, un champ, pour... Il va prendre un terrain quelque part dans un village, il fait son champ, il compte tous les chefs maintenant pour qu'ils viennent voir les résultats. Mais étant chef de canton, non rémunéré, parce qu'il est payé par des impôts, le pourcentage, 2% des impôts qu'il collecte. Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier les champs de démonstration. Dans chaque village, et on est arrivé à un moment donné où les chefs de canton, un chef de canton avait 75 champs de démonstration agricole. Donc, il accapare les terres en fonction de sa production. Donc, je passe sur l'époque coloniale. L'époque du régime socialiste, 1957 à 2000, ils ont pris le pouvoir. Je vais prendre un exemple. La terre, ils vont manipuler les terres. Donc, il y a des conséquences environnementales. Puisque eux, ils sont, avec la loi de 1964, propriétaires de 95% des terres, c'est le domaine national. Ils vont manipuler, faire des manipulations foncières en déclassant les forêts, les réserves forestières, pour les donner à des sociétés de mise en valeur. Au moins ça, c'est un peu tolérable, j'ai dit un peu. Mais ce qui va suivre est plus grave, parce qu'ils vont déclasser les forêts qu'ils vont remettre à des marmots. Et l'un des marmots, on lui a donné la plus grande forêt, telle comme si vous occupez des terres, vous devez entendre parler. Il y a même un truc à TF1 qu'on avait fait, un film sur Khelkom, c'était dans la zone nord. Vous savez, le Sénégal, c'est deux zones. Une zone nord qui est agressée par le désert, et une zone sud, c'est la forêt. Alors dans la zone nord, les forêts, classés, les réserves forestières ont été déclassées par l'État qui immatricule à son nom et qui le donne soit à des clientèles maraboutiques politiques, parce qu'ils ont les voix, soit à des sociétés bidon. Alors, mais cette question de terre, quand vous la transposez, ils l'ont transposée au sud, où il y a la forêt, où il y a 2000 mm de pluie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Casamance, ils vont maintenant prendre les terres. Première chose, le Diola, Napoléon Diola, vous dites, vous êtes quoi, le Diola? Il vous dit, je suis un riziculteur, donc civilisation de vie. Je suis un buveur de vin de palme, donc la forêt. Que fait l'État sénégalais indépendant? L'État sénégalais indépendant va accaparer les rizières des Diola, les redistribuer aux gens du Nord, et les redistribuer aussi à des Français, dont le club Met, qui construit un hôtel, prend la palmerie des populations, et prend les employés qui viennent du Nord, qui ne sont pas Diola, et qui leur donne les rizières, on les remblait, on fait des terrassements, ils construisent le cadre dans les rizières. Alors que pour le Diola, la conception du Diola, la conception de la vie du Diola, c'est la riziculture du riz, qui se trouve dans toutes les pratiques religieuses, et c'est la forêt où il y a le bois sacré, toutes les pratiques religieuses sont faites dans la forêt. Alors, c'est les non-Diola, le gouverneur, le comité des Wolof, qui détruisent la forêt, qui prennent les rizières, mais quelle va être la réaction du Diola? Mais il va prendre les arbres. Au début, c'était des flèches. Aujourd'hui, c'est des bazookas et autres qu'ils utilisent contre l'armée sénégalaise. Et c'est une véritable guerre dont l'élément catalyseur est la foi. Je n'ai pas voulu trop développer, mais je passe sur les autres exemples. Alors, cette question donc forestière, on l'a héritée, et on le trouve dans d'autres régions, à Binona, aussi toujours dans le sud, les gens ont accaparé les rizières, et les gens sont allés directement tomber entre les mains des rebelles. Ce ne sont pas les rebelles, c'est les gens qui ont pris les armes, parce qu'il y a un mépris culturel, non pas venant des Français à l'époque coloniale, mais le mépris culturel est venu des gens du nord, c'est-à-dire des Sénégalais qui administrent la région. Alors, donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est un mépris culturel, est-ce que c'est une épreuve de force, ou est-ce un abus d'autorité? Mais je pense que, quelque part, dans la mentalité, dans le schéma mental de ces gens, je crois qu'il y a des problèmes. Ce que le système colonial n'a pas fait, ce sont les Sénégalais qui l'ont fait. Donc, le résultat, c'est la guerre. Alors, le régime libéral, alors ça, c'est pire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux entre le régime libéral et le régime socialiste. Voilà des gens qui ont pris le pouvoir en 2000. On était fatigués du régime socialiste, on a alterné. On leur donne le pouvoir. Tous les scandales fonciers du Sénégal ont été faits durant ces périodes 2000-2012. Entre 2000 et 2012, le régime de Wadi a distribué 650 000 hectares à 17 personnes. Je dis bien, entre 2000 et 2012, 650 000 hectares ont été distribués à 17 personnes nationales et étrangères. Je vais donner deux exemples. Il a pris des mesures politiques. Il s'est réveillé un bon matin, conseiller de ministre, il dit plan Réva. Parce qu'il y a les gosses qui prennent les bateaux pour aller en Espagne. Le slogan c'était Barsac ou Barça. Barça c'est Barcelone. Barsac c'est l'au-delà. Donc il prenait des pirogues pour aller en Turquie. Il traversait l'océan Atlantique. Les trois cinquièmes sont au fond de l'océan. Attention à vos poissons parce que les poissons sont bien nourris par ces jeunes-là. Il y a des milliers de morts. Hein. Personne ne prenait compte. Alors il voulait arrêter le mouvement. Il a créé le plan Réva. Ils sont allés dans les villages. Ils se sont accaparés les terres des populations qu'ils ont données aux gosses. Mais il y a tellement de scandales politiques là-dedans. Ce plan a échoué très rapidement. Un autre jour, il s'est réveillé et dit la voile, ça veut dire c'est une politique d'abondance et de la nourriture agricole, je ne sais quoi. Je ne peux même pas vous définir ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que lui-même, il est allé à Kebemer, il a pris 1000 hectares. À Dakar, dans les villes, il a pris tous les terrains. Ailleurs, il s'est tapé des terrains et il a dit au ministre et au premier ministre allez faire de l'agriculture. Donc, ce sont les paysans du dimanche. Tout le monde est allé cultiver, s'accaparer des terres des populations du Sénégal. Alors, ce qui est très grave, c'est que les forêts sont déclassées. Lui aussi, il a déclassé la forêt de Pout. À la sortie de Dakar, il y a une forêt de poumon vert qu'on avait. Il l'a déclassée, il l'a donnée aux deux grands marabouts du pays. Entre-temps, on est à la veille des élections, il sait qu'il doit perdre les élections. Qu'est-ce qu'il fait? Il le vend, il vend ses terres à Dangote, qui est un Nigérian qui fait de la cimenterie. Et les gars, ils vont s'implanter avec les Chinois. Donc, c'est ahurissant. Et les exemples, il y en a plein comme ça qu'on aurait pu donner. Si vous allez à Mbane, il a donné les terres aux Italiens qui voulaient faire de l'éthanol. Nous, on n'a pas besoin d'éthanol. On a même du carburant qu'on ne peut pas exploiter. Parce que dans tous les pays africains où il y a du pétrole, c'est la guerre. Mais il veut faire développer l'éthanol avec la biomasse, les patates douces. Il le donne aux Italiens, les populations n'ont pas été associées parce que dans le projet, il était dit que pour chaque hectare, l'Italie allait payer 50 000 francs CFA par hectare aux populations. Quand ils ont signé le papier, la société italienne ramène, parce que vous savez, les Italiens, j'ai rien contre eux, mais bon. Ils ont ramené le coût de 50 000 à 25 000 sans aviser la population. Alors la population est descendue dans la rue, il y a eu une bataille rangée et il y a eu des morts. Donc l'armée a intervenu. Bon, on ne peut pas multiplier les exemples, mais je vais marquer là en donnant simplement, en vous disant qu'au Sénégal, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Renaissance, le monument de la Renaissance qui a fait chuter Wadi. Alors, Wadi est allé créer, emprunter de l'argent pour construire, à partir du BTB, pour construire l'aéroport Blaise Diagne, à 40 km de Dakar, où il n'y a pas de tour pour y aller, donc il y aura un problème d'accès. De toute façon, si vous descendez à Blaise Diagne, vous allez passer toute la nuit sur la route. Maintenant, il voulait transférer l'aéroport s'il gagnait les élections. Il a vendu les terres de l'aéroport de Dakar à quelqu'un pour une valeur de 15 milliards de francs CFA. Et il a construit son monument et il est devenu actionnaire principal du monument. C'est ça qu'il a fait pour tomber. Les gens se sont battus pour le faire partir. C'était tout sauf Wadi et sa famille, etc. Et le dernier exemple que je donne, c'est l'Arabie Saoudite. Nous sommes un pays musulman. Vous savez que si l'Arabe Saoudite vient chez nous demander des terres, la porte est grandement ouverte. Et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, je vous cite ce qu'il a dit, nous on l'a appris à la télé, à la radio, dans les journaux, il dit, je ne mentionne pas d'achat de terres, mais plutôt des dispositifs permettant d'exploiter des terres agricoles conformément au protocole d'accord. On ne savait même pas qu'il y a eu un protocole avec l'Arabie Saoudite. Ils vont venir cultiver nos terres. Et Amadou Mokhtar Bow, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien directeur de l'UNESCO, qui est aujourd'hui le parrain du nouveau gouvernement, parce que nous avons fait l'alternance de l'alternance. Alors, maintenant, Amadou Mokhtar Bow, voilà, je vais vous dire ce qu'il a dit, et je termine par là, c'est le dernier mot. Et il a eu les étudiants de l'Université de Saint-Louis pour les sensibiliser, il fait le tour du pays pour sensibiliser les jeunes étudiants, et dit, nous ne devons plus accepter que nos terres soient données à des étrangers venus d'ailleurs, alors que les ayants droit restent ici à les regarder faire. Nous ne devons plus accepter que d'autres viennent prendre nos richesses, les cultiver au détriment de notre peuple. Il faudra que les nouvelles autorités, donc l'alternance de l'alternance, les nouvelles autorités pensent à doter la population de moyens pour qu'elle puisse cultiver ses terres pour un développement durable. Je vous remercie.
Merci à tous pour cette approche très concrète.